deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers d'Evaluna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois. Écrit libre.
Écrit libre.
Écrit libre.
Écrit libre.
Écrit libre.
Écrit libre.
Libre. Écrit libre. Écrit libre.
Reparler de ça.
Alors là, d'accord. Alors ça, c'est intéressant.
Puisque j'en suis là.
C'est bien ça.
À quoi bon ?
Aimez-vous fréquenter les musées ou les expositions d'œuvres d'art ? Lorsque vous regardez l'œuvre d'un artiste peintre, à quoi pensez-vous ? Êtes-vous attentif aux couleurs, aux dessins ? Pensez-vous à l'artiste qui a peint ce tableau, à ses modèles ? Êtes-vous du genre à tout examiner dans les moindres détails ? À laisser votre esprit vagabonder, à émettre quelques brefs commentaires. Les textes qui suivent ont été inspirés par une œuvre célèbre, La Vénus d'Urbain de Titien. Sur ce tableau, qui peut se regarder notamment au Musée des Arts de Nantes, on peut voir, étendue, une Vénus dénudée, auprès d'elle un petit chien, en arrière-plan, deux femmes, que l'on devine être deux servantes.
Clin d'œil. Texte de Marie-Hélène Grimaud. Dans l'entrée du musée, je m'encadre, je mesure la profondeur de cette salle. Je voudrais décrocher le tableau qui me fait face, le prendre en main, le caresser. Mon immobilise est trompeur, mes sens, dans leur ensemble, me bousculent. Enfant, j'aimais manipuler les images d'Épinal. Je les triturais de haut en bas, de gauche à droite, pour trouver le visage caché. Ce jeu d'observation et de devinette me fascinait. Ici, la Vénus est le centre de mon attention. Je focalise sur sa beauté prude, je l'habille habilement d'amples soieries. Mais elle repose sur ma rétine si voluptueuse que c'en est aveuglant. Il me faut un certain temps pour ne plus être ébloui. Après plusieurs clignements des yeux, la peinture n'est plus aussi flashée. Je la photographie sans son vernis. Doucement, je flâne vers le petit chien endormi et je m'attarde sur l'étrange quiétude somnolente de l'atmosphère première que le tableau dégage. Naturellement, je m'approche. La miniature du détail se regarde à la loupe. Je fixe l'angle nord-est du tableau et je perds la boussole. Les deux servantes vivent, existent, leur histoire naît de l'ombre. Sans broncher, je dépoussière le tableau, je tire le voile. Des marionnettes entrent en scène, deux servantes s'affairent. Une mère et sa fille, lingères de métier. Ou bien deux sœurs, l'aînée debout, grande et imposante, la cadette chétive, menue comme suppliciée. Mes yeux leur prêtent la parole. « Où as-tu mis le linge enveloppant le bouquet odorant ?» Martel, la plus âgée. « Quand apprendras-tu à ranger la chambre » ajoute-t-elle avec autorité. La maîtresse-femme ne prend pas part à la recherche. Campée, droite, la robe de velours de madame sur l'épaule, elle attend, elle s'impatiente de ne pouvoir parfumer le vêtement avant l'habillage. Elle retrousse sa manche. Va-t-elle sermonner encore plus fort ? Toujours agenouillée, tremblante, la petite, la tête enfouie dans le bahut, comme au coin, attend la sentence, le fouet. Inconsciemment, je cherche ce martinet pour y couper les lanières. Mais, tout comme la malheureuse fébrile, nous cherchons en vain. Et le couperet tombe comme une évidence, car le couvercle du coffre à demi retombé sur la nuque de la pauvrette tremble fort. Ma raison se trouble, en perdrai-je moi aussi la tête ? Dans l'intimité de cette maison de maître se mêlent douceur et dureté, que ne sépare même pas la cloison illusoire peinte par le maître. car tout s'assemble. Vénus entre dans ce jeu de cache-cache. Ne vous fiez pas à son sourire de joconde, d'innocente. Avec malice, elle dissimule sous l'oreiller le bouquet de violettes que ne trouve pas la petite, le bouquet au parfum indispensable à la toilette matinale. Vénus paraît indifférente à ce qui se passe en coulisses. Dans ce tableau coexistent deux mondes, peut-être trois, quand s'y projette le souvenir des réprimandes de ma mère pour le désordre de ma chambre. Je recule et le relief s'arrondit, s'élargit, je prends de la couleur. Ce n'est plus la même heure de la journée. Hors du temps, je découvre la nonchalance d'une sieste qui se prépare. Derrière les tentures, il y a du ciel bleu et du soleil. Vénus étoiletée, purifiée, elle révèle sous son enveloppe charnelle une jeunesse éternelle. Lecture, Michel Frappard.
Et si cette Vénus était une adolescente un peu capricieuse?
D'après Titien, la Vénus d'Urbino, texte de Cécile Nivet.
Je n'ai plus rien à me mettre. Juliette boude. Elle vient d'avoir 15 ans et a beaucoup grandi cette année. Son corps s'est transformé. Sa mère vient de lui apporter un tas de vêtements vintage de la ressourcerie, mais Juliette ne veut même pas en entendre parler. Elle reste couchée dans son lit et tourne le dos à sa mère et à Céline, sa jeune sœur, en chemise de nuit, qui fouille dans la malle de la friperie avec ardeur. « Tiens, une magnifique robe, exactement à ta taille, dorée, brillante, avec des rubans verts. Superbe !» Sa mère lui tend la robe. « Mais ça va pas, tu me vois avec ça au lycée, de quoi j'aurais l'air ?»« Attends, il y a plein d'autres trucs bien au fond, viens voir !» propose la jeune sœur avec entrain. « J'ai trouvé une robe blanche, un jupon vert, un chemisier rouge, tu veux quoi ?»«
Je veux rien, je ne mettrai pas ces trucs ringards, ces jupes longues démodées, ces fringues des années 70. Maman, c'est peut-être bon pour toi, ou encore pour Céline qui est au collège, mais moi, sûrement pas. »«
Moi, j'aime bien ça !» s'écrie Céline en brandissant une tunique indienne brodée.
« Voilà, honte, mais ça, et tu seras têtée de plouc immédiatement, ma pauvre !»«
Mais Juliette, qu'est-ce que c'est que ce conformisme bêlant ?» s'inquiète sa mère. Il faudra bien que tu te contentes de ce qu'il y a là-dedans. Je ne ferai pas une seule dépense dans les supermarchés, encore moins dans les boutiques du centre-ville pour minettes à la mode. Impertinente et sûre d'elle, Juliette quitte sa culotte, enlève sa chemise de nuit et lentement s'allonge sur le drap. Eh bien, moi, comme je n'ai rien à me mettre, je resterai toute nue, voilà. Avec délicatesse, elle enfile ses boucles d'oreilles et son bracelet, puis la tête posée sur l'oreiller, se tourne vers la fenêtre avec un petit sourire narquois. « J'irai au lycée en boucle d'oreilles, voilà !» Sa mère, se retenant de rire, cherche des arguments pour la convaincre. « Ne compte pas sur moi pour acheter des vêtements fabriqués par les Ouïghours. » Le petit chien de la famille, sentant une ambiance joyeuse, grimpe sur le lit en aboyant. Il veut participer au tableau. « Couchez là, au pied !» Docile, il s'enroule en boule et s'endort. Juliette, tournant le dos aux autres en signe de refus, s'étale, lascive, sur le lit, tout en nouant une natte dans ses longs cheveux. La mère commence à s'impatienter. « Tu vas attraper froid. Attention, les gens vont te voir de la rue. »« M'en fiche. » Elle enroule sa natte au sommet de sa tête comme une couronne. « Je suis une reine, une princesse, une courtisane peut-être, » déclare-t-elle. Sa mère ne rue plus. « Juliette, tu es indécente. » La jeune fille pose la main gauche sur son pubis et de l'autre attrape un petit bouquet de fleurs roses séchées. « Et comme ça, est-ce plus décent ?» Sa jeune sœur, qui n'en perd pas une, s'amuse.
Elle avance devant le lit, comme à un spectacle, et contemplant la scène déclare « On dirait un tableau ancien, comme dans mon livre d'histoire. » Elle s'approche avec son portable. « Bouge pas, je te fais une photo. » La mère arrive furieuse et attrape l'appareil violemment. « Sûrement pas, non mais, après on retrouvera ça sur Internet. » Les deux jeunes filles pouffent. Le chien se réveille et aboie. « Mais c'est pour rire !» s'exclame-t-elle gentiment. Mais la mère irritée se fâche vraiment. « Maintenant, ça suffit les gamineries. Toi, habille-toi en vitesse et toi, tu descends directement faire tes devoirs. » Céline récupère son portable, fait une photo en douce avant de s'enfuir. Juliette ne bouge toujours pas. « Je veux un jean et des baskets. Sinon, j'irai au lycée à poil. Non. » C'est ainsi que, quelques jours plus tard, elle obtint effectivement un jean, un t-shirt et des baskets offerts par sa grand-mère pour son anniversaire. Quelques années plus tard, Céline, la jeune sœur devenue étudiante aux Beaux-Arts, présente pour son diplôme de fin d'études une série de détournements des représentations du corps de la femme dans l'histoire de l'art, en citant en particulier la Vénus d'Urbino. Elle montre plusieurs dessins faits de sa main, extrapolation, à partir du tableau de Titien. Elle s'est appuyée pour sa démonstration sur divers documents, dont le célèbre tableau de Manet Olympia, et entre autres d'une photo de sa sœur, posant en Vénus. Quant à Juliette, elle se maria et eut beaucoup d'enfants.
Lecture, Cécile Nivet.
Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire. Tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te.
Dans la nouvelle qui suit, l'esprit de l'auteur vagabonde bien loin du tableau de Titien. Et Vénus est une vraie star.
L'opticien et sa lunette. C'est toi que j'ai rencontré un soir d'hiver au coin de ma rue. Tu m'étais apparue brillante, souriante, certes petite et plutôt rondelette. Tu avais déjà une grande expérience de la vie. Hélas, tu n'as pas toujours été heureuse. Ton mari, forgeron de métier, est du genre colérique, voire même volcanique. De plus, il est laid et boiteux. Toi, très avenante et surtout séduisante, tu essayes d'aller à la rencontre d'autres hommes. Ainsi, tu as tourné longtemps autour d'Hélios, un sacré séducteur, un bel Apollon au regard étincelant et toujours vêtu d'habits pourpres. Puis, au début du printemps, je t'ai revue, cette fois-ci depuis la fenêtre de ma pièce de travail. Un peu capricieuse, tu ne te montrais pas tous les jours, ça dépendait de l'humeur du temps. Par contre, à chaque fois, tu m'as paru de plus en plus brillante, de plus en plus gracieuse, de plus en plus séduisante. Peut-être que tu avais perdu un peu de tes rondeurs et que ta taille s'affinait. Plus je t'observais, plus tu me plaisais, au point que j'en parlais même à mes amis de cette envoûtante rencontre. Mais il n'y avait pas que moi qui t'avais remarqué. Un jeune soldat, au bel uniforme rouge, était tombé amoureux de toi. J'ai cru comprendre que tu n'y étais pas insensible non plus. Il lui prit l'idée insensée de vouloir t'offrir une bague. C'est alors que, sous le regard courroucé de son chef, il regardait avec envie les beaux anneaux que je remarquais presque chaque matin à sa portée. Il voulut en passer un au doigt. Comme il ne pouvait pas se déplacer facilement, il lui fallut alors trouver un messager pour te l'apporter. Toutefois, le seul capable de le faire et en qui il avait toute confiance était en ce moment de service le soir. Il faudra alors attendre un meilleur alignement des planètes. Pendant ce temps, tu paraissais encore plus grande et ta taille s'affinait. Parallèlement, ton habit de lumière se couvrait de moins en moins et ta nudité se révélait en conséquence de plus en plus. Pourtant, quand je te dévisageais avec intention depuis ma fenêtre, j'avais le sombre pressentiment que l'éclat de ton teint allait s'évanouir de jour en jour. Puis, tout récemment, tu disparus de ma vue un soir derrière l'étoile, toi, Vénus, l'étoile du berger. De janvier à mai 2020, par ordre d'entrée en scène, Vénus, Terre, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne et Mercure.
Texte de Bernard Conseil, lu par Michel Frappard.
JTFM 91.2, les ateliers des Valounais.
On dirait que Vénus a des soucis.
Jade rentre chez elle affolée. « Louise, Louise » crie-t-elle à la volée. « Oui, madame !» lui répond son aide ménagère accourant vers elle, interloquée par l'air désemparé de Jade. « Vite, vite ! Mon miroir à deux faces, savez-vous où il est ?»« Mais pas du tout. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ?» Et Jade de lui raconter. Elle revient du supermarché où il y a un monde fou. Noël, c'est dans un mois. Mais tout le monde se rue dans les rayons de jouets et matériel technologique depuis que les actualités ont annoncé le blocage des cargos en provenance de Chine où la plupart de ces articles sont fabriqués. Le risque de pénurie pourrait durer. Jade a bien tenté de se frayer un passage vers l'objet convoité. L'épilateur Vénus 2.1. Il élimine les poils sans aucune douleur et fait les jambes douces. Elle le veut à tout prix, car tous les appareils qui se vantent d'un même résultat se révèlent d'horribles instruments de torture. Malheureusement, juste sous son nez, une brune à la bouche pulpeuse se rue sur la dernière boîte. En plus, en voyant Jade, la main suspendue au-dessus de l'étagère vide, elle lui décoche un regard dédaigneux et un sourire narquois. Face à la brune triomphale, Jade ressent une telle honte. Est-elle si poilue pour mériter ce mépris? Il faut qu'elle en ait le cœur net. Bref, tout ça pour dire qu'elle a un besoin express de son miroir double face. L'une qui lui renvoie son image normale et l'autre grossissante qui lui donnera la réalité. Jade donne l'autorisation à Louise de fouiller l'appartement. Aussitôt, l'intérieur de tous les contenants y passe, les placards, le moindre tiroir, les hauts et les dessous des meubles. Les bras de Louise vont bon train à tout remuer sans ménagement. Ça cogne, ça clingue, ça teinte. « Oh, Louise, votre charivari me donne le tournis et me casse les oreilles. Je vous abandonne !» dit-elle en s'affalant sur son divan, d'où son chien observe la scène d'un œil indolent. Louise, elle, jubile. À elle la fameuse collection de coffres que Jade rapporte de ses voyages, car elle les trouve trop commodes pour cacher son foutoir. Elle va pouvoir fouiner tranquille dans les secrets de Jade.
Texte de Claire Dovy, lu par Michel Lannes. Sage comme une image ? Sûr, l'image se tient tranquille. Peut-on en dire de même du peintre et des modèles ? Thank you.
La Vénus d'Urbino, texte de Henri Burckhardt.
Une pause dans la pause, si j'ose dire. C'est pas de refus, j'ai le cou bloqué à force. Et puis on a beau être à Venise au printemps, les matinées sont encore fraîches. J'ai demandé à Titien de mettre une petite laine, il a refusé catégoriquement. Je m'y attendais, noté. Mais il aurait pu en profiter pour fignoler le décor, ou même mon visage. Mais non, monsieur a besoin que je reste intégralement nue. L'inspiration. Il dit que ça lui coupe l'inspiration si je me couvre un tant soit peu. Ça, c'est les hommes. Je commence à les connaître. En plus, Titien, c'est pas la première fois que je travaille pour lui. Il m'avait peint, il y a 2 ans, un portrait classique. Je posais debout, de 3/4, dans une superbe robe de velours d'un bleu profond avec des manches décorées de broderies d'or et de bouillon blanc. Un peu chaude quand même en été. Mais avec les boucles d'oreilles et la grande chaîne en or, c'était le luxe absolu. J'ai fait un théâtre pas possible pour garder la robe. Finalement, Titien en a parlé au commanditaire et il a dit oui. Et j'oubliais, le tableau, il voulait l'appeler « Portrait de noble dame » ou « Femme vêtue de bleu ». Mais c'est devenu la Bella. Vous parlez si j'étais fière. Et je vous dis pas les copines. C'est vrai qu'entre Vénus, on est forcément aussi rivales, mais là, elles ont pris un coup sur la tête. Elena, la pouffe du Tintoret, elle m'a pas parlé pendant 1 mois. Et Maria, la meuf de Paolo, elle en était verte. Vert véronèse, bien sûr. Pourquoi je vous raconte tout ça? J'y viens. Guido Baldo, le comte d'Urbino, il venait de temps en temps voir comment le portrait avançait. Trop fier pour me parler directement, mais je voyais bien comment il me regardait. Un bel homme d'ailleurs, grande prestance, un nez impérieux et très riche. Très riche. Marié, certes, mais je ne suis pas idiote, je sais jusqu'où nous les modèles on peut aller. Toujours est-il qu'il y a 3 mois, mon Titien me monte chez lui. Et que je te parle du soleil et du beau temps et que je tourne autour du pot. En fait, il voulait que je pose nue, nue comme un ver. Véronèse, bien sûr. Ah pardon, j'ai déjà fait celle-là. Bref, j'ai joué les Vénus effarouchées, mais j'étais plutôt flattée. Un nu artistique, ça vous positionne sur le marché. Surtout le Titien. Grosse, grosse cote. Comme dit Mama, un Titien vaut mieux que 2 Tullora. Tullora, c'est sûrement un peintre de son époque. J'en ai jamais entendu parler. En tout cas, j'ai pas mis longtemps à lui faire nommer son commanditaire. Et là, l'auto, c'était le comte. Sa morgue, c'était rien que de la timidité. Après 2 ans, il ne m'avait pas oublié. Il avait trouvé ce moyen détourné pour en savoir plus sur moi. Quelle délicatesse, quelle pudeur, quel romantisme! Ça m'a touchée au plus profond de moi. Du coup, j'ai failli ne pas discuter la proposition. Et puis j'ai pensé à la famille. Les sentiments, c'est pas ça qui nous fait vivre, maman et mes sœurs. À Venise, c'est simple. La fille la plus moche se consacre à Dieu ou aux bonnes œuvres. La plus jolie aux hommes, enfin les carrières artistiques. Et s'il y en a une troisième, elle travaille pour les femmes. C'est plus dur. Chez nous, il n'y avait pas dessin, comme on dit. Anna Maria travaille à la pitié et Carlita est servante. Alors j'ai demandé à Titien de les prendre comme figurantes. Il a fini par accepter. Mais quand il les a vus dans l'atelier, il est devenu tout rouge et il m'a prise à part. Pour Carlita, il a choisi son profil gauche, bien obligé. Et pour Anna Maria, ça a été très chaud, mais on a fini par trouver un arrangement, avec le coffre. Et voilà qu'au lieu de me remercier, elle me pourrit la vie sous prétexte qu'elle a mal au genou et que personne ne saura jamais qu'elle est sur le tableau. Moi, je trouve qu'elle a une très jolie robe blanche qui souligne ses formes et attire le regard. Mais les gratitudes, j'ai l'habitude. Bon, je cause, mais on va redémarrer. Il faut que je reprenne la pause. Ah si, une dernière chose. Vous avez vu ma coiffure? C'est beau, hein? 1 heure de préparation par jour. Mais c'est cadeau. C'est pour Guido Baldo. Et c'est pas tout, la teinte de mes cheveux, vous voyez, sur l'épaule droite? Ça vous surprend pas, une fille du Sud? Eh oui, je l'ai fait décolorer. C'est un nouveau procédé. Notez que c'est pas gratuit, ça coûte un bras, comme dit Milo. Vénus Milo, ma copine grecque. Mais tout le monde adore, les filles en sont folles. Tout Venise s'y met. Le Titien, il passe un temps fou à travailler les nuances et les reflets. Il aimerait que cette couleur devienne sa marque de fabrique, qu'elle passe à la postérité, comme peut-être le vert véronèse. Il voudrait qu'on l'appelle le blond Vénus Titien. Moi, j'y crois pas. Trop compliqué à retenir.
Lecture, Cécile Nivet.
Peinture en direct.
Dis donc, Élise, tu as pris la pose de la Vénus d'Urbino, mon cher modèle.
C'est une position que tous apprécient apparemment. Depuis 10 ans que je pose pour ce club de peinture nantais, il n'y a pas eu de réclamation.
Mais pour être fidèle au tableau, il te manque les 2 femmes brunes qui fouillent dans le coffre à côté de toi. On peut dire que Sophie et Catherine, qui t'amènent le chauffage pour que tu ne prennes pas froid, vont jouer ce rôle. Le chien sera absent. Les ateliers sont interdits aux animaux.
Eh bien, ça y est, le tableau est composé. Et qui joue le rôle de Titien, le peintre célébrissime de Venise?
Et tous ceux qui te peignent ont les yeux de Titien, Élise. Moi, j'aime le velouté de la peau qu'il donne à ses femmes. Bertrand va préférer les lumières qu'il laisse entrer dans la pièce. Michel va faire un zoom sur tes pieds, comme Titien le faisait sur les fourrures et les dorures qui ornaient ses riches personnages. Renato va peindre tes yeux et ton regard, qu'il recherche comme le Titien, amant de son modèle. Jean-Pierre va soigner ta coiffure pour en faire un chef-d'œuvre qui rendait très bien dans le salon du duc d'Urbino, commanditaire du tableau.
Donc, vous tous, peintres amateurs, êtes des Titiens en puissance.
Oui, Élise, on a quelques points en commun. Comme le maître, on est tous amoureux du modèle. Plein d'espoir aussi, comme lui. Passionné par la vie également. Il nous manque juste un petit détail. Le talent du grand Tiziano.
Texte de Jean-Luc Tonazzi, lu par Michel Lannes. Du 20 au 24 décembre, à 18h, écoutez Compte du recrutement, la série présentée par les EAT, écrivains et auteurs de théâtre. La plateforme Corazon offre de multiples opportunités. Nos 5 candidats sauront-ils les saisir? Et qui est vraiment Megan? Compte du recrutement, c'est sur Jet FM 91.2 du 20 au 24 décembre. À 18h.
Jet FM 91.2, les ateliers d'Eva Luna.
Cette émission a été réalisée par Sylvie Bauget, voix Marie-Jeanne. Réalisation technique, Luc.